RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Et retour dès le début de ce journal sur la visite d'État de 2 jours du président angolais João Lourenço en France. De nombreux partenariats économiques à la clé. 420 millions d'euros de contrats en tout. L'Union européenne a profité de ce séjour pour tenter de contrer les influences russes et chinoises sur le continent africain. Vous entendrez le commissaire aux partenariats économiques. Nos confrères d'Amplitude FM au Cameroun rendent hommage depuis hier à leur collègue Martinez Zogo, disparu un 17 janvier 2023 et dont le corps sans vie avait été retrouvé 5 jours plus tard. Fin de tournée ouest-africaine pour le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Une première de la sorte depuis le début de la guerre civile. Lui qui aimerait voir son pays réintégré au sein de l'Union africaine. Et puis la prudence de Madrid après l'enlèvement confirmé d'un ressortissant espagnol mardi soir dans le sud de l'Algérie, puis emmené par des hommes armés au Mali. Nous sommes dans la capitale espagnole en fin d'édition. Clap de fin hier sur la visite d'État du président angolais João Lourenço en France. Après une réunion de travail jeudi avec son homologue Emmanuel Macron, 420 millions d'euros de contrats ont été annoncés entre Paris et Luanda. Et hier, un forum d'affaires Angola-France a été ouvert en marge d'une visite de la délégation au siège du MEDEF, le patronat français. Les entreprises de l'Hexagone ont d'ailleurs pu marquer leurs intérêts pour les opportunités créées par le futur couloir ferroviaire de l'Obito. Claire Fage pour les détails.
Le français Suez signe un nouveau protocole au montant non précisé avec les autorités angolaises pour, après les grosses usines de retraitement de l'eau, passer à la phase 2 des infrastructures dans le Grand Luanda. François Doussin, DG de Suez Afrique.
Ça sous-entend de créer l'ensemble des branchements, amener de l'eau, on va dire, à un peu plus d'un million de foyers de manière qualitative et selon les recommandations OMS.
Le président de Météo France Internationale, Patrick Bénichou, conclut de son côté avec l'Angola un contrat au montant inégalé.
85 millions d'euros, c'est un contrat qui est historique pour Météo France Internationale. Renforcer les infrastructures d'observation et de traitement de données, c'est mieux protéger les populations des risques naturels, l'activité marine, le transport, l'aérien et y compris la défense.
Investir ailleurs que dans le pétrole, c'est le vœu à la fois des entreprises françaises et de leurs interlocuteurs angolais, tels que Louis Lélis, PDG de la Banque Angolaise des Investissements.
Il y a beaucoup de compagnies européennes qui veulent tirer profit du potentiel agricole le long du corridor de l'Obito pour investir dans des productions comme la banane, le fruit du dragon. Si une compagnie française a besoin de financement en monnaie locale, nous sommes en mesure de lui fournir.
Développer la production de maïs et d'orge est par exemple le vœu de Castel, le géant français de la bière et des boissons.
Autre annonce faite en marge de cette visite d'État, une aide de 76,5 millions d'euros à destination du développement du secteur économique de l'Angola, aide apportée par l'Union européenne qui pourrait être en train de revoir son approche vis-à-vis du continent africain. Joseph Sikela, fraîchement nommé commissaire aux partenariats internationaux, encourage les entreprises du vieux continent à investir en Afrique dans le cadre du Global Gateway, stratégie lancée en 2021. Pour lui, c'est un moyen de lutter contre l'influence de la Chine, mais aussi contre celle toujours plus grandissante de la Russie. Je vous propose de l'écouter.
L'incertitude créée par l'effondrement des chaînes d'approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine conjuguée à l'approche très agressive de certains de nos rivaux ont créé de nouvelles dynamiques, que cela soit du côté européen comme chez nos partenaires. Il existe désormais un besoin accru de passer des accords entre des partenaires qui regardent dans la même direction. Et c'est en résumé la proposition que nous souhaitons leur soumettre. Nous pensons en effet qu'au lendemain de certaines expériences vécues, notamment sur le continent africain avec certains de nos concurrents, il y a aujourd'hui une volonté européenne d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus visible et d'encourager les investissements venus du secteur privé. Le modèle actuel n'a manifestement pas abouti aux résultats escomptés. Et les développements réalisés ne sont également pas suffisants pour nos différents partenaires.
Joseph Sikela, commissaire européen aux partenariats internationaux avec Paul Lorgerie. On apprend ce matin par la voix de Molly Fee, secrétaire d'État américaine adjointe sortante chargée des affaires africaines, que le couloir de l'Obito aurait pu être étendu notamment à travers l'est de la République démocratique du Congo, cela en cas de stabilisation de la situation. Le couloir de l'Obito, ce projet américain emblématique sur le continent visité par Joe Biden le mois dernier et qui vise à accélérer le transport des minerais du sud de la RDC et de la Zambie jusqu'à la côte atlantique de l'Angola. La représentante américaine a également évoqué l'existence d'un cadre négocié par les parties, cadre dont semble s'être éloigné le Rwanda, selon elle. La RDC qui a franchi cette semaine une étape décisive dans sa coopération avec le Fonds monétaire international. Deux programmes approuvés, le premier dédié à la stabilité économique et à la lutte contre la pauvreté, le second sur la résilience face au changement climatique. En tout, 3 milliards de dollars vont être injectés sur 3 ans pour ces projets qui prévoient des réformes ambitieuses et des financements conditionnés à de bons résultats. Mais dans une RDC confrontée à de multiples défis, on se penche sur les principaux risques qui pourraient compromettre ses ambitions. Avec Passion Ligodi depuis Kinshasa.
Selon des experts qui ont participé aux négociations, la RDC fait face à plusieurs risques. D'abord, le conflit dans l'est du pays continue de peser lourdement sur les finances publiques. Les dépenses exceptionnelles de sécurité, estimées à plus d'un milliard de dollars chaque année, détournent des ressources des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé ou encore les investissements structurants. À cela s'ajoute l'avancée du M23 soutenue par Kigali et le blocage persistant des discussions de Luanda qui ne font qu'amplifier les inquiétudes. Ensuite, la dépendance excessive de l'économie congolaise au cours volatile des matières premières, en particulier le cuivre et le cobalt, représente un risque économique important. Une chute brutale des prix de ce produit pourrait perturber la gestion budgétaire et fragiliser les équilibres économiques déjà précaires. Un autre point sensible concerne l'éventualité d'un référendum constitutionnel. Ce projet qui polarise déjà la classe politique pourrait entraîner des tensions sociales et politiques significatives. Il y a aussi le risque de voir des ressources financières et humaines détournées des priorités essentielles pour être affectées. Enfin, la transparence budgétaire demeure un défi, de même qu'un recours excessif aux procédures d'urgence pour les dépenses. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
RFI 8h37 à Yaoundé. C'était hier au Cameroun, le triste deuxième anniversaire de la disparition de l'animateur radio Martinez Zogo. Son corps sans vie et nu était retrouvé 5 jours plus tard en périphérie de Yaoundé. Martinez Zogo, qui ce matin du 17 janvier 2023 avait présenté sa dernière émission à l'antenne d'Amplitude FM. Et hier donc sur les ondes, l'essentiel des programmes lui était consacré. Une série d'hommages qui va courir jusqu'au 22 janvier. Jour de la découverte de sa dépouille. RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
Un bouteillage.
Retour sur les ondes de votre radio, la radio Amplitude FM.
Thierry Valère n'a pas la tâche facile. Depuis 2 ans, c'est à ce jeune animateur qu'il a été confié la lourde tâche de prendre la suite de Martinez Zogo. Le nom de l'émission n'a pas changé, mais remplacer Martinez, affirme-t-il, n'est pas la chose la plus aisée.
C'est très dur, hein. c'est pas évident. C'est déjà une grosse production, une charge énorme, l'émission Embouteillage. Et puis, il faut travailler dur. Et chaque jour qui passe, j'ai toujours ces frissons quand j'arrive à 9h30.
Sur le plateau ce 17 janvier, plusieurs journalistes se relaient, chacun évoquant le lien et le souvenir qu'il a de Martinez Zogo, Billy Show International, journaliste animateur vedette dans la capitale.
Nous avons voulu fuir parce qu'on n'avait plus le courage d'affronter la violence et tout. Nous avons fait des mois sans venir à la radio. On s'est rendu compte que c'était lâche par rapport à lui qui s'était sacrifié. C'est pour cela que nous sommes venus avec une nouvelle énergie pour ce deuxième anniversaire, là où on a travaillé ensemble pour dire que nous attendons que justice soit faite et que nous attendrons le temps qu'il faut pour que Martinez ait gain de cause et qu'il ne se sente pas seul.
Ces hommages, soulignent les uns et les autres, participent de la volonté de garder vive la mémoire du disparu. D'autant soutiennent-ils que le volet judiciaire en est encore qu'au premier balbutiement. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
21 mois de guerre au Soudan et le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui s'impatiente, lui, souhaite que son pays réintègre l'Union africaine. C'est dans cette optique, selon certains, qu'il a effectué cette semaine une tournée ouest-africaine, Mali, Guinée, Sierra Leone, Sénégal et Mauritanie, au programme de cette première visite dans la sous-région depuis le début de la guerre qui oppose ces hommes à ceux du général Emmeti, les paramilitaires FSR. S'agit-il là d'une ouverture diplomatique au-delà des pays voisins avec lesquels le Soudan entretient habituellement des relations? Élément de réponse avec Alexandra Branjon.
Tout au long de sa tournée, le général El-Burhan n'a cessé de dénoncer les soutiens extérieurs dont bénéficient les paramilitaires du général Emeti. Il vise notamment les Émirats Arabes Unis, accusés de fournir des armes aux forces de soutien rapide, et le Tchad, où transiteraient ces armes, ce que demande N'Djamena. El Bourhan cherche à présenter le Soudan comme victime d'une agression, explique un chercheur, et essaye de mobiliser la solidarité africaine contre une ingérence étrangère. Lors de sa visite à Bamako, le président Assimi Goïta a réitéré le soutien du Mali au Soudan, dénonçant des ennemis qui œuvrent contre la stabilité du pays pour convoiter ses ressources. En Mauritanie, le président Oulcher El Razouani, également président de l'Union africaine, s'est dit prêt à contribuer au soutien du Soudan pour surmonter la crise. Mais rien n'a filtré sur la teneur des échanges quant à la réintégration du Soudan au sein de l'Union africaine. À défaut d'une réintégration immédiate, l'organisation panafricaine ayant réitéré son opposition au coup d'État militaire, un réchauffement des relations avec Khartoum n'est pas à exclure, estime un spécialiste.
Et puis on vous en parle depuis hier sur nos antennes. Les autorités espagnoles ont confirmé les informations de RFI selon lesquelles un ressortissant espagnol avait été arrêté mardi soir dans le sud de l'Algérie, près de Taman Rasset, avant d'être emmené par des hommes armés au Mali voisin. Madrid qui observe la plus grande prudence à l'égard de cette affaire sur laquelle on dispose toujours de très peu d'informations. François Musso est dans la capitale espagnole pour RFI.
À l'origine, on parlait d'une femme, puis aussi bien depuis le ministère des Affaires étrangères espagnol que d'après plusieurs médias nationaux comme El País, ABC ou El Nacional.cat, il semblerait que la personne enlevée serait un homme d'une soixantaine d'années de nationalité espagnole. Il semblerait aussi que cette personne faisait partie d'un groupe de touristes apparemment passé par Alger, la capitale, et que le groupe qui a perpétré cet enlèvement aurait relâché tous ses membres, sauf lui. Cette même personne aurait été amenée vers le Mali depuis. Quant au groupe terroriste responsable, il s'agirait d'une branche de l'État islamique Grand Sahara. Les autorités espagnoles se sentent d'autant plus impuissantes qu'elles ont réduit leur présence militaire ces dernières années dans cette partie du monde et, outre quelques actions ponctuelles au Niger et alentour, n'ont plus qu'une présence au Sénégal. Dans le but de protéger au maximum la personne enlevée, la prudence est de mise la concernant. François Musso, Madrid, pour RFI.
Et c'est à Madrid que se referme cette édition. Tout de suite sur RFI, vous retrouvez Julien Coquelroem.